Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Êtes-vous déjà entré en possession d'un héritage? Ce matin, je vais vous expliquer comment vous pouvez hériter d'un bien fabuleux. Lorsque l'Esprit de Dieu s'unit à l'Esprit de l'homme, après que celui-ci se soit repenti et ait décidé de vivre selon la parole de Dieu, le chrétien devient alors un enfant engendré de Dieu et devient héritier de Dieu. L'apôtre Paul le confirme. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Qu'est-ce qu'un héritier? C'est une personne destinée à recevoir les possessions, les biens ou les titres d'une autre personne, tout comme les enfants sont appelés à hériter de leur père physique. Chaque être humain engendré de Dieu pourra devenir héritier de son père spirituel dont le nom de famille est Dieu. L'homme a été créé pour hériter de Dieu. C'est là le but de la vie humaine. L'homme et la femme qui se soumettront à leur Créateur hériteront toutes choses. Et toutes choses signifie bien toutes choses, y compris l'univers entier. L'homme a été créé pour entrer dans la famille divine dont le nom est Dieu. Actuellement, cette famille est composée des deux êtres qui règnent sur tout ce qui existe, visible et invisible, physique et spirituel. S'il se soumet à Dieu, l'homme deviendra un héritier de la famille divine, un héritier de toutes choses à jamais. La Bible enseigne clairement que Dieu est une famille et que l'homme est destiné à entrer dans ce cercle familial. L'apôtre Paul écrit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », ce qui signifie « Père ». L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est la puissance, la pensée même de Dieu. Il ne la communique qu'à celui qui lui obéit. À son sujet, Paul ajoute « L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Paul écrit aux chrétiens à Éphèse, « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Dans la généalogie du Christ, mentionnée par Luc, Adam est appelé « fils de Dieu ». Pour le moment, la famille divine ne comprend que deux personnages, le Très-Haut, le Père de Jésus-Christ, le Maître du ciel et de la terre, et l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par qui toutes choses ont été créées et qui devint notre Sauveur Jésus-Christ. Le christianisme traditionnel n'admet pas que le Christ du Nouveau Testament soit la même personne que l'Éternel de l'Ancien Testament, le Créateur de l'univers, celui qui forma Adam, protégea Noé, appela Abraham, lutta avec Jacob, parla à Moïse, conduisit le peuple dans le désert et inspira tous les prophètes. Pourtant, c'est ce que la Bible révèle. Traditionnellement, on fait croire aux gens que l'Ancien Testament décrit un Dieu cruel et que le Nouveau Testament présente un Dieu doux et compatissant qui dévoile ce qu'est le véritable amour. De telles affirmations ne sont pas bibliques. Si vous prenez la peine d'examiner toutes les Écritures en vous efforçant de les comprendre, vous constaterez que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de miséricorde. Moïse écrit de lui « L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. » Moïse conseille aux Israélites, sur le point d'entrer dans la terre promise, observe ses lois et ses commandements, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi. Malheureusement, le peuple se tourna vers de faux dieux et n'a pas voulu écouter les nombreux avertissements qui lui étaient adressés. Dieu permit qu'ils subissent la déportation. Le roi David décrit Dieu en ces termes. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Lorsque vous lisez les Écritures, ne cherchez pas à conforter vos idées personnelles et n'ayez pas d'idées préconçues. C'est ainsi seulement que vous découvrirez que le Christ a fait preuve d'autorité, notamment en chassant les vendeurs du temple. D'un autre côté, voyons comment il traita les scribes et les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Vous pouvez lire ces accusations sévères dans le 23e chapitre de l'Évangile de Matthieu. Le livre de l'Apocalypse annonce que le Christ reviendra pour combattre, et lorsqu'il aura vaincu ses ennemis, il imposera la paix, le gouvernement divin et ses lois sur la terre. Le Christ, celui que beaucoup appellent encore le petit Jésus ou le divin enfant, était déjà Dieu au commencement. Il l'est de toute éternité. Cet être physique fait de chair et de sang, qui avait abandonné complètement toute gloire, toute divinité, pour remplir une mission sur terre, est celui qui avait créé toutes choses, la terre, les cieux, l'univers, l'homme. Ceci vous étonne? Prenez la peine de vérifier ce que je vous dis. L'apôtre Jean décrit la parole en ces termes, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. De son côté, Paul écrit, « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Le prophète Amos avait déjà écrit, « Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui a fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. » Le prophète Ésaïe parle de l'Éternel en ces termes. « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. D'un côté, nous lisons que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a créé toutes ces choses. De l'autre, nous lisons que le Christ, la parole, a créé tout cela. La Bible ne peut pas se contredire. Nous devons en conclure que l'Éternel de l'Ancien Testament et le Christ ne sont qu'une seule et même personne. C'est ce que l'apôtre Paul confirme. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Sans aucun doute, ce passage se rapporte à l'ancien Israël, qui, après sa sortie d'Égypte, fut guidé par l'Éternel dans le désert. il était leur rocher comme Moïse l'écrit. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. La Bible contient de nombreux passages dans lesquels il est fait mention du Père. Jésus a dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le Christ débute la prière modèle par ces mots, « Notre Père qui est aux cieux. » Dieu est souvent appelé Père. Le nom Dieu le Père est souvent utilisé dans des passages qui mentionnent des enfants. Notre Père ou Dieu le Père sont des expressions qui nous sont familières. Trop souvent, nous les utilisons sans réfléchir à leur véritable signification. Mais elles témoignent que Dieu est vraiment le Père, un Père qui veut réunir toute sa famille autour de lui. Lorsque nous lisons la description de la Nouvelle Jérusalem, nous y découvrons ce qui suit. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Paul écrit, « Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Dans ce passage, le terrestre fait référence à Adam, à l'homme en général. Le céleste, quant à lui, se rapporte au Christ et à la famille divine. Ce passage spécifie que nous portons aujourd'hui l'image de nos parents physiques et que plus tard, nous porterons l'image de cette famille qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, car en créant l'homme, Dieu avait l'intention de le faire entrer dans sa famille. La parole de Dieu révèle clairement que la destinée de celui qui vaincra, se soumettra à Dieu et fera toute sa volonté, sera d'être accueilli au sein de la glorieuse famille divine. Toutefois, une clarification s'impose. Celui qui vaincra n'aura jamais le pouvoir de supplanter le Père ou le Christ. Il n'aura pas leur puissance et leur autorité, mais il entrera bien au sein de cette famille dont il héritera toutes choses, et sera composé d'esprit. Il demeurera un individu bien distinct des autres qui entreront, tout comme lui, au sein de la famille divine. Chacun gardera sa personnalité, chacun recevra ses responsabilités, mais en aucune façon nous ne deviendrons pas des robots. Une harmonie parfaite unira tous ceux qui feront partie de cette famille, dirigée éternellement par le Père et par le Christ. Voici l'incroyable destinée qui attend l'humanité entière. Si vous désirez recevoir gratuitement et sans engagement le texte de cette émission, écrivez à Le siècle à venir, boîte postale 1360 1000 Bruxelles.